Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Mercredi 13 mai, il est 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
La matinale à l'âme lyrique. Cela fait deux mois maintenant qu'une note, mon cher Marc Bourreau, n'a pas résonné à l'Opéra de Paris.
Et 8 semaines de silence, Guillaume. 8 semaines. Et pour combien de temps encore? La pandémie n'épargne pas l'institution lyrique. Les caisses se creusent comme jamais. 40 millions d'euros de déficit prévus d'ici la fin de l'année. L'Opéra de Paris parviendra-t-il à redresser la pente? Sylvain Faure, l'ancienne plume du président et aujourd'hui directeur du site forumopéra.com, plaide lui pour une symphonie du nouveau monde en quelque sorte, à savoir une longue fermeture, le temps de tout remettre à plat.
On a un énorme trou dans la caisse comme on n'en a jamais eu. On a un problème social persistant. Toutes ces questions-là, peut-être que c'est le moment de les poser et de dire, écoutez, en fait, on va fermer l'opéra 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois pour tout mettre à plat. Nous n'en sommes pas là simplement à cause du coronavirus. En fait, c'est une longue dérive qui est simplement le fait que cette maison a été de plus en plus poussée par l'État à aller chercher des ressources propres. On a engagé une course en avant au succès, une course en avant aux entrées. On a fait monter les prix des billets, etc. Il est, à mon avis, important que l'État se engage et que l'État considère à nouveau que l'Opéra de Paris est un fleuron de la politique culturelle de la France.
Sylvain Faure répondait à Baptiste Gabory. Le coronavirus qui fait une nouvelle victime dans la vie culturelle, Rock en Seine n'aura pas lieu cette année. Le dernier grand festival de l'été est reporté à l'année prochaine.
Mais les organisateurs demandent, si ma mémoire est bonne, mon cher Marc, qu'ils puissent garder, ne demandent pas le remboursement des billets pour pouvoir venir donc lors de la prochaine édition. Comme un rappel à l'ordre, le virus tue toujours et le nombre de décès est encore nettement remonté malgré la moindre hospitalisation.
Oui, presque 350 morts en 24 heures, près de 2500 personnes en réanimation, des chiffres particulièrement scrutés ce matin. Premier conseil des ministres de l'après-confinement à l'Élysée. Avec ce constat, le virus continue de circuler activement sur le territoire. À chaque jour, ces nouveaux foyers. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Dernier en date, dans les Côtes d'Armor, 46 cas recensés à l'hôpital de Lannion en l'espace de 2 semaines.
Oui, un cluster en pleine zone verte dans le département breton, le moins touché par l'épidémie. Tout commence le 1er mai dernier. On découvre un cas au sein du service de gériatrie de l'hôpital de Lannion. L'ARS lance alors une campagne de tests pour identifier tous ceux qui ont été en contact avec cette personne et découvre que 19 patients et 22 membres du personnel sont atteints du Covid-19. L'enquête permet aussi d'établir le parcours de 4 patients positifs retournés à leur domicile ou dans leurs EHPAD. Du 6 au 12 mai, l'ensemble du personnel de 3 EHPAD et d'un service d'aide à domicile de la région ont donc été testés, tous négatifs. Mais par sécurité, les admissions ont été stoppées dans ces structures. Conclusion de l'ARS, cette situation de contamination groupée souligne l'importance de poursuivre le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.
Merci Augustin Lefebvre. Y aura-t-il ou non un second tour des municipales au mois de juin? Selon le Parisien, ce matin, Matignon va saisir le conseil scientifique pour lui demander un rapport. La question pourrait être tranchée dès la semaine prochaine. Elle concernera les quelques 5000 communes qui n'ont pas élu leur maire dès le premier tour. Les autres pourront tenir leur conseil municipal au plus tard le 28 mai prochain.
Ce mercredi, le déconfinement aura un goût iodé dans certaines communes.
Oui, se promener, Guillaume, sur les galets ou le sable fin, on en rêve tous et c'est désormais possible. À partir de ce matin, à La Baule, à Pornichet, le front de mer se dégage à Biarritz. Nice attendra samedi. Anne Hidalgo, la maire de Paris, elle réclame la réouverture des parcs et des jardins de la capitale. Pour l'instant, le gouvernement dit non. Pendant ce temps, nouvelle intervention des forces de l'ordre après le canal Saint-Martin. Le parvis du Sacré-Cœur Noir-de-Bonde, hier soir, a été évacué.
Encore les bobos. La capitale où le plan de bataille se précise pour les transports.
100% des trains assurés sur la ligne 13 ce matin à Paris et bientôt un trafic normal sur l'intégralité du réseau. Ce sera d'ici fin mai, début juin, promettent la région Île-de-France et la ministre de la Transition écologique. Au niveau national, maintenant la question reste en suspens pour une reprise des TGV. Ce changement de braquet en tout cas est le bienvenu pour Marc Fresseau, spécialiste du transport ferroviaire.
L'idée, c'est de mettre le plus de trains possible pour atteindre une densité la plus faible possible pour respecter les questions sanitaires de distance entre les gens. Par contre, pour le TGV, on sera pas à 100% début juin. La SNCF est limitée par le gouvernement. Les gens n'ont pas le droit de se déplacer à plus de 100 km. Si les règles s'assouplissent cet été, ce sera une bonne chose pour la SNCF dans la mesure où elle pourra augmenter son offre à 100%. Par ailleurs, la question de la distance physique imposée, on sait pas si elle pourra remplir à 100% ses trains.
Un propos recueilli par Céline Cajoulis. Et puis tous à vos attestations de déplacement dérogatoire ce matin. Elle est indispensable dans les transports en commun aux heures de pointe sous peine d'amende.
Radio Classique, le journal. Marc Bourreau.
Avec Marc, nous partons maintenant à 8000 km de la métropole et avec vous, si vous le souhaitez, merci de suivre Radio Classique, direction Mayotte, le dernier département français qui est encore confiné.
12 morts depuis le début de l'épidémie, mais l'agence régionale de santé là-bas craint toujours le pire. Elle parle même d'un risque d'embrasement épidémique. Le virus circule à toute vitesse et les structures de santé extrêmement fragiles doivent lutter contre un autre fléau, celui de la dengue. Le reportage de Rémi Vallès.
À Mayotte, un habitant sur trois n'a pas accès à l'eau potable quand une large partie de la population vit sous des habitations en tôle qui se transforment vite en fournaise. Difficile dès lors pour de nombreux Mahorais de rester chez eux, de se laver les mains, bref, d'appliquer les gestes barrières et de respecter le confinement, comme l'explique le député de l'archipel, Mansour Kamardine.
Mayotte, c'est 84% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec une population de 400 000 habitants, dont 200 000 sont en situation irrégulière. Ensuite, quand on vit de ce qu'on vend à la sauvette, il est très difficile que les gens se confinent parce qu'ils n'ont pas forcément toujours l'espoir de pouvoir manger à leur faim à la fin de la journée.
Une situation qui favorise la circulation du virus alors que l'île compte pour l'instant plus de 1100 cas et une douzaine de décès. Mansour Kamardine plaide pour un changement de stratégie face au Covid.
Il faut déconfiner tout simplement parce que persister dans l'erreur n'a jamais été une grande politique nationale. Il faut tester massivement. Aujourd'hui, nous avons une capacité de tester de 100-300 personnes jour pour aller jusqu'à avoisiner les 1000 tests jour, mais aussi offrir des masques à tout le monde.
D'ici la fin mai, 10 lits de réanimation supplémentaires doivent être déployés à Mayotte. Le centre hospitalier de Mamoudzou n'en compte que 14.
À l'étranger, un chiffre peu rassurant aux États-Unis, le nombre de décès repart à la hausse, quasiment 2000 morts en 24 heures. 881 victimes supplémentaires au Brésil. Le nombre de contaminations dépasserait là-bas les 1,5 million d'habitants, selon des chercheurs indépendants, bien loin des chiffres officiels. Enfin, le Liban se reconfine pour 4 jours. 109 nouveaux cas ont été recensés depuis dimanche.
Voilà, et vous pourrez lire à la une du Monde qui est sortie hier, à la recherche des jours heureux. Donc, éditorial, les chroniques de Françoise Fressoz, mais elle constate qu'au lieu de galvaniser les Français, les interventions du président de la République semblent accroître leurs inquiétudes. Il faut dire que l'actualité est toujours à un moment où la tragédie est présente. Nous sommes un 13 mai. Souvenez-vous, par exemple, le 13 mai 1980, donc la gauche venait d'arriver au pouvoir, mais ce qui a marqué les gens en dehors de cette arrivée de la gauche au pouvoir, c'est l'attentat contre le Saint-Père. Souvenez-vous. Voilà donc un élément qui a évidemment bouleversé la population catholique du monde entier, le pape ayant rencontré le tireur, donc Mehmet Ali Akka dans sa cellule en 1983. Et pour clore ce journal, après ce rappel qui donne de la profondeur à l'actualité, un petit détail qui n'en est pas un, c'est l'histoire d'un chat.
Et oui, les animaux, Guillaume, ne sont pas plus épargnés que nous par le virus. Des dizaines de cas recensés dans le monde, un tigre dans un zoo de New York, deux chats testés positifs en France ces derniers jours. Mais attention, si nos animaux de compagnie sont exposés. Ils ne sont pas en revanche des vecteurs de la maladie, Sophie Echen.
Perte d'appétit, éternuement et une fatigue extrême, c'est ce qui est arrivé à Papille. Elle est la première chatte qui a officiellement contracté le Covid-19 en France. Depuis, un second cas a été avéré à Bordeaux. En tout, ce sont 6 chats qui ont été diagnostiqués positifs dans le monde. À chaque fois, c'est l'homme qui a transmis le virus à son animal et non l'inverse, assure Sophie Lepauder. Elle est professeure de virologie à l'école vétérinaire de Maison Alfort.
Un propriétaire symptomatique qui va peut-être avoir des éternuements notamment et donc des projections de particules virales infectieuses. C'est probablement comme ça qu'il y a eu ces quelques rares cas de contamination.
Aucun élément scientifique ne permet d'avancer que le chat représente un danger pour l'homme, ni même aucun animal d'ailleurs. En fait, si les félins mais aussi les furets sont sensibles au coronavirus, ce n'est pas le cas de la plupart des autres espèces.
On s'aperçoit que même si on inocule des porcs, on ne voit aucune réplication du virus chez le porc. Il y a eu aussi des essais faits chez des volailles, il n'y a eu aucune réplication chez les volailles. Donc il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'espèces animales qui soient non réceptives au Covid-19.
Alors si vous présentez des symptômes, rien ne justifie d'abandonner votre animal de compagnie. Évitez simplement de le manipuler quelques temps pour le protéger d'une contamination.
Voilà, je ne sais pas si vous avez un chien ou un chat, Guillaume, mais ma précision était...
Voilà, rien de tout ça à la maison. Ma fille rêverait que j'ai un chat, mais pour l'instant, il n'en est absolument pas question. Je tiens mon canapé. 17h39, nous avons rendez-vous avec Serge Effes, car le débat sur le confinement, déconfinement, la fragilité physique, psychologique des gens est très important. Il est en direct avec nous sur l'antenne de Radio Classique.